affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons faire un double voyage dans le temps et dans l'espace. Nous allons aller à la rencontre de Rembrandt, et même plus exactement de Rembrandt dans son intimité. Nous allons en effet évoquer la merveilleuse exposition que consacre au maître hollandais le musée Jacquemart André, sous le titre Rembrandt intime. Je précise d'ailleurs d'emblée, pour ceux que cela pourrait choquer, qu'il ne s'agit pas de pipeliser, comme on pourrait dire, Rembrandt. Il ne s'agit pas d'aller le regarder par le trou de la serrure, fût-il dans son atelier, mais bien de découvrir, outre sa vie, le processus de son processus créateur, son inspiration, et aussi découvrir à quel point son génie créatif, son talent et sa singularité étaient précisément de souhaiter vouloir percer et refléter l'intimité, l'intériorité des êtres humains dans une vision à la fois chrétienne et calviniste, j'imagine, mais humaniste avant l'heure, tant il était empreint d'empathie, comme ses peintures vont nous le démontrer. Et pour faire ce merveilleux voyage à la découverte de Rembrandt, de ses contemporains et de l'humanité tout entière telle qu'il l'a peinte, l'humanité éternelle, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Pierre Curie, qui est conservateur du musée Jacquemart André et co-commissaire de cette exposition.
Merci, bonjour.
Pierre Curie, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ma première question exprimera une surprise. Spontanément, on n'associe pas le musée Jacquemart André à la peinture hollandaise. Comment se fait-il que vous ayez eu l'idée de réaliser une telle exposition, dont je précise qu'elle est une exposition d'ores et déjà de référence s'agissant de Rembrandt, tant il y a des pièces qu'on a peu l'habitude de voir en France qui y figurent.
Oui, c'est vrai. C'est sûr que dans l'imaginaire collectif, si l'on veut, le musée Jacquemart André est plutôt consacré, dévolu à l'Italie, à cause de la personnalité de Nelly Jacquemart, qui a légué l'hôtel particulier et sa collection. Et Nelly était une amoureuse de l'Italie. Elle y avait été de très nombreuses fois, parfois avec son époux Édouard André. C'est elle qui avait coloré cette collection du côté de l'Italie. En revanche, Édouard André, lui, avait très tôt manifesté son goût pour l'art hollandais. Il avait été impliqué d'une part dans la création du musée des arts décoratifs, mais aussi dans la gestion de la Gazette des Beaux-Arts. Et la Gazette des Beaux-Arts, au milieu du 19e siècle, est à la pointe de la reconnaissance de l'art hollandais. Notamment, il écrit, par exemple, Thore Burger, qui va écrire dans la Gazette des Beaux-Arts ses premiers articles fondateurs sur Vermeer, qui est en pleine redécouverte à ce moment-là. Et il achète, Édouard André achète son premier Rembrandt en 1865. Ça n'est pas très original, mais ça prouve que lui, dès le milieu du 19e siècle, s'intéresse à la peinture hollandaise. Alors, le fond du musée est tout petit. Il y a un Ruisdael, un Frans Hals, trois Rembrandt, encore quelques tableaux, mais un Van Orgoyen absolument magnifique. Quelques tableaux flamands aussi, les trois Van Dyck sont quand même aussi des chefs-d'œuvre du musée. Et puis, en fait, ce petit fond est resté comme ça, un peu marginal, à côté de cette énorme collection française et italienne. Oui.
Alors, il se trouve que le hasard ou l'intuition et le goût d'Édouard André, en l'occurrence, mais aussi de Nelly Jacquemart dans un second temps, ont bien fait les choses, puisque les trois œuvres de Rembrandt que vous possédez dans votre fond correspondent, peu ou prou, aux trois phases du développement du talent et de l'œuvre de Rembrandt.
Voilà.
C'est bien ça.
D'abord, on a de la chance, parce que ces Rembrandts sont restés des Rembrandts. au cours du 19e siècle, le marché est tellement avide d'œuvres de Rembrandt que beaucoup de tableaux de son atelier, de son école, de ses élèves deviennent des Rembrandts. Il y a plus de 1000 tableaux de Rembrandt dans les corpus, disons, au début du 20e siècle. Il y a un groupe de chercheurs qui, à partir des années 1960, a travaillé sur ce corpus pour le réduire à environ 340 tableaux. Aujourd'hui, c'est le, c'est le Rembrandt Research Project qui a croisé l'histoire de l'art, le connaisseurship et les analyses scientifiques, radio, infrarouge, etc. Et donc aujourd'hui, on arrive à un corpus raisonnable de 340 tableaux, sachant que donc on a parallèlement créé les corpus des élèves. Hein, c'était quand même aussi des très bons peintres, souvent. Alors nos trois tableaux sont restés des Rembrandts. Donc ça, c'est une chance. le portrait d'Arnold Tollens, qui est le premier achat d'Édouard André. Et puis, deux achats conjoints des époux André. D'abord, les merveilleux pèlerins d'Emmaüs en 1891. Et ensuite, l'année suivante, le portrait d'Amalia von Solms en 1892. Mais à ce moment-là, on pense que c'est un portrait de Saskia. Il y a une petite erreur sur le modèle.
Toujours est-il qu'autour de ces trois œuvres, il était possible de construire une exposition parfaitement cohérente.
Oui, c'est ce qu'il a.
C'est la trajectoire.
C'est ce qu'il a la légitime. Et puis, en effet, on pouvait s'appuyer sur ces trois œuvres jalons, en quelque sorte, pour proposer une vision de Rembrandt assez cohérente dans le parti chronologique qui a été suivi. Néanmoins, les salles sont aussi construites sur des thématiques dans la chronologie, si vous voulez. Et donc, ces œuvres, on a réuni 22 peintures et 31 œuvres graphiques, ce qui est quand même un très beau score, si l'on considère aujourd'hui la difficulté de ces prêts internationaux, qui sont très difficiles à obtenir, et aussi, bien sûr, le coût qui est induit par ces prêts, ces emprunts, notamment en matière d'assurance.
Et donc les œuvres, en l'occurrence, viennent à la fois des Pays-Bas, j'imagine.
Oui, nous avons beaucoup de prêts des Pays-Bas, donc Amsterdam, La Haye, beaucoup de prêts aussi allemands, Nuremberg, Berlin, et quelques prêts exceptionnels, le Metropolitan Museum de New York, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, Ottawa. Voilà, quelques très beaux tableaux qui sont venus de loin et qu'on ne voit pas tous les jours.
Vous avez parlé de la distinction entre les peintures et l'œuvre graphique. Je précise que l'œuvre graphique, parce que le roman est surtout connu pour ses peintures, spontanément on pense aux peintures, mais l'œuvre graphique n'est pas d'un moindre intérêt, loin de là, elle est souvent plus inédite à notre œil, donc ça vaut vraiment le coup d'aller les voir. Cette présentation étant terminée, je vous propose qu'on chemine dans cette exposition.
Volontiers.
Salle après salle, période après période, pour découvrir ce talent qui est clos. Si j'ai bien compris, les premières salles sont consacrées au début de Rembrandt, à Leyde, au début du XVIIe siècle. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Rembrandt, parce que finalement, Rembrandt, le peintre,
Le jeune homme, rien ne le prédispose vraiment à être un artiste. Il naît dans une famille très nombreuse. Enfin, il y a au moins dix frères et sœurs. Il est le fils d'un meunier. Sûrement, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la famille, mais il a la chance de naître à Leyden, c'est-à-dire une des deux villes universitaires des Provinces Unies. Les Provinces-Unies, qui à ce moment-là, depuis 1606 et 1609, avaient leur autonomie complète par rapport aux Pays-Bas espagnols. Donc il naît vraiment au même moment que les Pays-Bas. C'est intéressant, il y a une conjonction historique tout à fait intéressante là. Et donc il a la chance de grandir à Leyde. Il sera d'ailleurs étudiant d'une école latine puis de l'université. C'est dire si en fait cet aspect je dirais, savant, cet aspect littéraire qu'il va avoir aussi dans son œuvre, est au moins aussi importante que sa formation chez le peintre Isaac van Zwanenburg, qui est un peintre local, un peintre très intéressant. Il est allé en Italie, là, il est cultivé. Mais évidemment, Zwanenburg a eu énormément d'élèves, beaucoup d'élèves, et il n'a eu qu'un seul Rembrandt. Donc, bon, la formation de l'homme n'explique pas complètement son talent et encore moins son génie. Donc il grandit, si je puis dire, à Leyde, et il va partager assez vite un atelier avec un autre jeune peintre, et lui est aussi très talentueux, qui s'appelle Jan Lievens. Et Lievens est allé se former chez un on les appelle les romanistes, à Amsterdam, Pieter Lastman. Et il va attirer son camarade Rembrandt à Amsterdam pour quelques mois. Et Amsterdam, et l'atelier de Lastman va être vraiment la première vraie formation comme artiste de Rembrandt. On découpe peut-être un peu trop artificiellement, d'ailleurs, ces périodes de Leyde, voyage à Amsterdam, deuxième période de Leyde. Leyde et Amsterdam sont distantes de 40 km. Donc au XVIIe siècle, c'est deux jours de marche.
Oui, ce n'est pas un grand tour.
Non, ça n'est pas le grand tour. Donc, il a dû très tôt quand même fréquenter, connaître ce qui se faisait de mieux à Amsterdam. Et donc, il va arriver à Amsterdam, s'installer définitivement à la fin de 1631. Là, pour le coup, il loge chez les Eulenburg, etc. Donc là, on sait qu'il est vraiment basé à Amsterdam.
Alors, même si c'est un découpage artificiel, vous venez de le dire, oui, mais oui. Je le reprends quand même.
Non, bien sûr, on va.
Dans cette première période dite de Leyde, comment se caractérise son art? Est-ce qu'on peut déjà... Là, vous l'avez dit.
Oh, oui, d'abord, il est très marqué par Lastman. Il y a une conjonction stylistique très très forte avec le style de Lastman, qui est un style de peintre d'histoire. On montre une scène d'histoire... De sa jeunesse là, dans la première salle. C'est un artiste qui est encore marqué aussi par l'influence des derniers maniéristes. Il travaille encore d'après certaines gravures du XVIe siècle. Alors, il se dégage petit à petit de toute cette gang un peu surfaite de ce maniérisme tardif, mais il a déjà un talent extraordinaire et une habileté de peintre tout à fait formidable, même quand, comme dans l'Ânesse de Balaam, par exemple, il s'inspire directement d'un tableau de Lastman, qui lui-même s'inspire directement d'une gravure de Vélert.
Mais il les surpasse.
Oh, complètement. Il est 10 fois plus original. Et puis, il a aussi très vite ce talent sur la lumière. Les tableaux de Leyde sont des tableaux plutôt clairs, enfin, majoritairement. Il a une appréhension de la lumière, là en l'occurrence de la lumière solaire, de la lumière du jour, formidable, et qui donne dans la composition un volume, un espace très réel, alors que le tableau de Lastman est un petit peu plat. Le tableau de Rembrandt, est traversé d'un souffle incroyable, le mouvement des personnages, le mouvement de l'âne, aussi de l'ânesse, mais le tout exprimé avec une lumière magnifique. Ça va être d'ailleurs sa grande obsession, la lumière.
Oui, alors du coup, on songe directement au Caravage.
Oui, parce que...
Est-ce que ça lui est propre ou est-ce que c'est l'époque?
C'est un peu l'époque, c'est-à-dire que lui, Rembrandt, n'est pas allé en Italie. Mais il a la connaissance de l'art de Caravage à travers les œuvres que peignent ceux qu'on appelle les Caravagesques du Trecht, qui sont des peintres qui étaient partis en Italie, qui sont partis souvent pour plusieurs années, Terbruggen, Hontorst, Baburen, etc. Et tous ces bons peintres rentrent d'Italie dans les années 1620-1625, complètement imprégnés de l'art de Caravage, à un point très extrême pour certains. Et évidemment, Rembrandt va voir leur tableau. Donc il va avoir une connaissance indirecte de Caravage et du caravagisme, mais il va se l'approprier complètement et magistralement dans des toiles de petit format ou des panneaux de petit format, comme la fuite en Égypte du musée de Tours, par exemple.
Oui, où là, on voit vraiment quand même une rupture extraordinaire entre, on a parlé de l'Ânesse de Balaam et la fuite en Égypte. on a déjà complètement changé d'univers, non ?
Oui, il y a une dramatisation de la lumière dans l'œuvre de Rembrandt. Dans ses premiers tableaux, la lumière est un fait esthétique. C'est une recherche plastique, très belle d'ailleurs, et très parfaite. Dans ses tableaux des années 1630, les tableaux, on va dire, la période clair-obscur, et puis qui correspond plutôt dans notre exposition à la salle 2, on sent un Rembrandt plus tourmenté, plus personnel, qui va chercher à faire dire quelque chose à ce choc de l'ombre et de la lumière, à faire dire quelque chose au clair-obscur. Ça n'est pas un clair-obscur esthétique, c'est un clair-obscur spirituel, très fort, et cette dramatisation de la lumière, évidemment, renforce l'iconographie des tableaux.
En tout cas, je vais en parler comme quelqu'un qui se rendra à l'exposition et qui tomberait sur le tableau. Après tout, ça peut être légitime aussi.
Oui.
Dans cette fuite en Égypte, on voit Marie, Joseph et l'enfant Jésus sur l'âne, éclairé plutôt par en dessous, curieusement, dans un fond du noir parfait. On ressent leur crainte, leur angoisse et aussi le feu intérieur qui peuvent les porter.
On a presque parfois l'impression que Rembrandt a une sorte de préscience du cinéma. Dans ses tableaux, il se passe souvent des tas de choses en dehors de la composition. Là, c'est vraiment le cas avec ce foyer, peut-être. Est-ce que ce sont des bergers ? Est-ce que ce sont des nomades qui campent ? Mais on les devine, on les imagine en dehors de l'image. Et puis, il y a toujours ces ombres extrêmement vivantes, presque un peu inquiétantes, qui grouillent d'une espèce de vie corpusculaire très, très intense. Rembrandt mettait beaucoup de choses dans le fond de ces ombres qu'il recouvrait ensuite de glace si sombre. Et cette vie des ombres, de l'ombre, la vie du noir est tout à fait propre au maître à ce moment-là, les années 1630. Et la fuite en Égypte ou les pèlerins d'Emmaüs du musée Jacquemart-André sont tout à fait dans cette même veine intense, un peu dramatique.
Oui, dans les pèlerins d'Emmaüs, ça illustre bien ce que vous dites, puisque si je ne me trompe pas, l'un des pèlerins est en pleine lumière. Et on le voit, l'autre est dans l'ombre, prosterné au pied du
voilà, il est
prosterné au pied du Christ, mais on le distingue.
On le distingue à peine.
Est-ce que c'est pas un choix extrêmement novateur à l'époque de mettre un personnage comme ça presque caché?
Je pense que ça fait partie un peu de la recherche esthético-spirituelle ou peut-être même religieuse, disons-le, de l'art de Rembrandt. C'est-à-dire que ce ne sont pas des tableaux qui viennent à nous, ce ne sont pas des tableaux qui se jettent au regard du spectateur, comme peuvent l'être les tableaux baroques. Ce sont des tableaux dans lesquels on pénètre lentement, ce sont presque des supports à la méditation. Et en particulier ces pèlerins d'Emmaüs, qui propose une iconographie complètement originale, tout à fait nouvelle, à propos d'un thème qui va obséder d'ailleurs Rembrandt, qui est celui de la résurrection, et donc de la mort et de la résurrection. L'homme du XVIIe siècle vit en permanence avec la mort. Et Dieu sait si Rembrandt l'a expérimenté tout au long de sa vie, et en particulier dans sa vieillesse. Les pèlerins d'Emmaüs sont conçus sur cette espèce d'absence présente du Christ au centre de la composition, un peu décalé.
Avant tout, je suis désolé, je vous interromps, mais votre prédécesseur nous avait expliqué que désormais, lorsqu'on présentait de la peinture religieuse au grand public, désolé pour ceux qui connaissent l'histoire, mais il faut toujours rappeler l'histoire sainte
dont il est question.
Sinon, en fait, on perd la moitié.
Eh bien, le Christ est mort sur la croix et trois jours après, il est ressuscité et des pèlerins sur la route le croisent et vont dîner avec lui. Alors, c'est quand même un événement assez curieux et donc il dîne avec un mort ressuscité. Et Rembrandt a cette idée de génie de mettre cette figure en contre-jour complet.
Mais au début, ils ne le reconnaissent pas.
Ils ne le reconnaissent pas, ils mettent un certain temps, ils le reconnaissent quand ils quand il rompt le pain, en fait. Et c'est exactement le moment qui est représenté dans le tableau. Les tableaux de Rembrandt sont souvent extrêmement précis d'un point de vue iconographique. Ils suivent de très très près le texte. Et,
en terre calviniste, c'est conseillé, non ?
C'est conseillé, exactement. Et donc, il crée cette figure inoubliable d'un Christ en ombre chinoise qui se détache sur un fond incandescent d'une lumière très très belle qui semble jaillir de derrière lui et qui éclaire donc de plein fouet le pèlerin qui est en train d'avoir un mouvement de recul de stupeur devant la révélation du miracle. S'il y a un point commun entre Caravage et Rembrandt, c'est peut-être celui-là, c'est-à-dire que c'est la lumière est la seule incarnation en fait du fait divin à l'intérieur du tableau. Mais j'aime particulièrement cette idée d'une silhouette qui se découpe sur la lumière, c'est-à-dire le Christ est là, mais n'est pas là. Enfin, c'est une merveilleuse métaphore de la résurrection.
Et dans ce tableau, nous le disions au début, il y a le second pèlerin.
Voilà, le second pèlerin
qui est complètement peint dans l'ombre, se confond presque avec...
Dans la pénombre du premier plan, il faut voir le tableau pour rentrer dedans pour s'apercevoir qu'il est là, en effet. Encore une fois, ce ne sont pas des tableaux forcément faciles, qui plaisent ou qui séduisent tout de suite, comme un Titien ou comme un Raphaël. Ce sont des tableaux qui s'appréhendent avec du temps.
Dans ce travail de la lumière, il y a une seconde œuvre qui, si je ne me trompe pas, est présentée... dans l'exposition et qui est également très illustrative de sa maîtrise précoce de la lumière, c'est la parabole de l'homme riche, même si en lisant le catalogue, j'ai compris que finalement, c'était pas forcément...
On ne sait pas vraiment exactement.
On ne sait pas, mais enfin, c'est le titre qui lui était attribué.
C'est peut-être son tableau le plus caravagesque, c'est-à-dire que c'est vraiment un tableau où l'ombre et la lumière la jouent en opposition très très fortement dans un tableau un peu anecdotique. Et là, Rembrandt va jusqu'à adopter ce tic, je le dis avec tout le respect que je lui dois, ce tic de mettre une main devant la source lumineuse. Ce sont des choses qu'on a vues apparaître à Rome dans le milieu caravagesque, que Hontorst va rapporter en Hollande. Il va peindre de nombreux tableaux avec ce petit détail d'une main qui cache la chandelle. Il y avait à Rome même un maître qu'on appelle le maître à la chandelle qui s'était fait cette spécialité. Et bien des artistes adopteront cette façon de faire, à commencer chez nous par le grand Georges de la Tour, qui, sans doute d'ailleurs, n'a pas été en Italie, mais a fait un voyage en Hollande et a vu ce même genre de tableau. Et là, Rembrandt s'approprie cette façon de faire et il en fait du pur Rembrandt. C'est assez intéressant de voir comment, dans un tout petit format, il arrive à créer son propre univers.
Alors, en revanche, si on compare, en fait, ce tableau est antérieur au précédent. La parabole de l'homme riche est de 1627. Et le repas des pèlerins également présenté de 1629. Et on sent qu'en 1627, on a enfin le ressenti. Moi, je fais le candide qui se promène dans les salles. On a quand même encore un peu l'impression que c'est un jeune qui veut épater et montrer sa virtuosité. On a l'impression que c'est un peu gratuit.
Un petit peu, c'est-à-dire que là, il expérimente une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire, une nouvelle esthétique. Il découvre ce clair-obscur, ça renouvelle son genre. Lui, il était dans la peinture romaniste, dans la peinture d'histoire, et voilà qu'avec du clair-obscur, il peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché, et il a énormément travaillé, je suis sûr qu'il travaillait tous les jours, dessin, gravure, peinture. Et donc, il s'essaie à ce style. Il s'essaie à ce style qui a du succès aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un peintre qui doit vivre. Donc, il cherche une clientèle aussi.
Oui, mais voilà, on sent qu'il a envie de plaire. Au-delà même de l'aspect financier, il a encore un petit peu envie de plaire, d'épater, de se faire une place.
Oui, bien sûr. Ça me paraît assez évident. Mais du reste, il deviendra assez vite la coqueluche, si on passe l'expression, la coqueluche d'Amsterdam, dans les années 1630-1640. Il est le portraitiste attitré de toute la noblesse, la bourgeoisie, tous les gens riches.
On arrive justement du coup à la seconde période. Voilà. Cette place, il se l'est faite.
Il se l'est faite, exactement, grâce à son talent, à son travail. Il travaille énormément, comme peintre, mais aussi comme graveur. Et donc, il va réaliser dans cette décennie magique un grand nombre de portraits, entre les années 1630 et les années 1640.
Dont nous
possédons un exemplaire, donc le portrait d'Amalia van Solms, qui est qui d'ailleurs témoigne de l'importance de sa clientèle, puisqu'Amalia van Solms était l'épouse du Stadhouder, c'est-à-dire le deuxième personnage des Provinces Unies, le chef militaire en quelque sorte de la Hollande. Et donc voilà, et là il est vraiment au sommet. Pour que le Stadhouder lui commande un portrait, c'est qu'il est vraiment arrivé en quelque sorte. Le Stadhouder qui lui commandera aussi une série très importante qui n'est pas présentée à l'exposition, mais une série sur la crucifixion. Mais là, ce portrait d'Amalia van Solms, il fait pendant à un autre portrait qui avait d'abord été peint par Hontorst, donc l'autre grand peintre, disons le plus à la mode à cette époque-là. Donc ça situe tout à fait Rembrandt dans la plus haute sphère des artistes hollandais. Il y a des dizaines et des dizaines de portraitistes à ce moment-là, à Amsterdam et dans les autres villes, mais il est sans doute le plus en vue, le plus recherché. Et il produit des portraits qui sont à la fois réalistes, qui refusent l'idéalisation, ça c'est clair. C'est d'ailleurs ce que recherche sa clientèle. Sa clientèle veut de la ressemblance, veut une représentation objective de ce qu'elle est. Elle est très contente d'elle, la bourgeoisie hollandaise de cette époque-là.
En tant que telle.
Donc
elle n'a pas besoin d'être trop mise dans des scènes mythologiques.
Pas trop.
Ça pouvait se faire peu de temps avant, quand même.
Voilà, oui, bien sûr. Et donc, ce qui est tout à fait remarquable, c'est comment Rembrandt met son génie au service de cette bourgeoisie, par exemple, pour peindre des dentelles, pour peindre une collerette, pour peindre un collier de perles. Il y met un amour de peintre, enfin, un métier tellement parfait aussi que ça ne pouvait que séduire ses commanditaires et ses clients. Il a aussi une approche tout à fait nouvelle et personnelle du portrait, alors de la psychologie de ces modèles, qui sont extrêmement vivants, qui sont très présents. Et il y a un exercice auquel Rembrandt se livre, j'allais dire quotidiennement, c'est beaucoup dire, mais qui se livre très fréquemment, c'est l'autoportrait. Il a énormément peint son visage, peint, dessiné et gravé son visage, sans doute dans cette espèce de quête de la représentation d'autre chose que les traits, c'est-à-dire que comment représenter la psychologie, la personnalité d'un modèle. Et on ressent la même recherche dans ces portraits de nobles ou de bourgeois amstelodamois de son époque.
Si je ne me trompe pas, ces portraits s'appellent les tronies, c'est ça?
Alors les tronies, c'est un terme, les trognes, ça vient du mot trogne français, mais c'est pas péjoratif. Au XVIIe siècle, ça n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que, par exemple, je crois que la jeune fille à la perle de Vermeer est qualifiée de trogne aussi au XVIIe. Donc c'est plutôt, ça veut dire plutôt étude de tête, de fantaisie. Ça peut être plus ou moins exotique, ça peut être aussi une tête hollandaise, hein, tout simplement. Nous en présentons une très très jolie, qui est un soldat riant, peint avec une virtuosité incroyable.
Alors là, on est dans la truculence, on n'est plus dans les Pays-Bas calvinistes, on est vraiment chez un soudard envers soi.
Voilà.
On est dans la truculence flamande.
Oui, plutôt. Disons que c'est un des points de contact aussi avec un autre peintre de génie qui travaille à la même époque en Hollande, qui est Frans Hals. Ils sont contemporains. Frans Hals est un tout petit peu plus vieux. Ils ne sont pas dans la même ville, mais ils ont une démarche et une évolution relativement parallèle, en fait, dans leur carrière, dans le déroulement de leur évolution stylistique.
Alors, dans ces différents portraits, on a l'impression qu'il y a un autre développement parallèle et qui se recoupe peut-être, vous allez le dire, mais c'est les peintures de commande pour les puissants de l'époque, c'est-à-dire, j'imagine, essentiellement des bourgeois, ou comme une république bourgeoise, mmh. marchande, que les Pays-Bas à cette époque, et puis des gens du peuple ou de sa famille. Il travaille les deux filons. C'est-à-dire qu'on a à la fois des visages très hiératiques, dont on sent qu'ils peuvent être éventuellement confiés en dévotion intérieure, mais de façon assez conventionnelle, type le portrait d'Amalia von Holmes.
Solms.
mais aussi comme cette tête de soldat riant. Des trolls au sens contemporain du terme.
C'est là les plus populaires, ouais. Mais en effet, l'art de Rembrandt est extrêmement varié. En fait, si vous prenez, par exemple, notre dernière salle 6, là, au bout de la première partie du parcours, avec ces trois grandes figures orientalistes extraordinaires, ce sont des tableaux d'une modernité, d'une richesse incroyable. Ce grand oriental, cette espèce de pacha enturbanné.
Pensez au Mamamouchi de Molière.
Voilà, presque, mais c'est ça, c'est d'une grande fantaisie. Rembrandt adore, il adore les belles choses. Il achète des tissus, il achète de l'orfèvrerie, des objets, des naturalia. Il en a rempli sa maison au point que de faire faillite plus tard. Et parallèlement, quand on le regarde dessiner, il dessine des choses très humbles. Il dessine la rue, il dessine des petites choses qui se passent dans la rue, la petite scène de Commedia dell'arte, une mère avec son enfant, une vendeuse de crêpes, des choses.
Oui, mais parlez-nous un petit peu de cette marchande de crêpes.
Là, les pannekoeken. C'est une scène quotidienne, saisie. Comme ça, dans la rue, comme on ferait aujourd'hui une photo avec son iPhone.
Le résultat n'est pas le même. Hein, lui, je préviens, c'est pas la peine d'essayer.
Voilà, mais lui prend sa plume et son papier, son carnet et une plume, et il croque en quelques secondes exactement la scène avec toute la précision des gestes, un humour et une tendresse pour ces modèles, ces modèles spontanés et inconscients de l'être d'ailleurs. Et il y a dans ce dessin le geste du petit garçon qui cherche au fond de ses choses la pièce qui va lui permettre de s'acheter la crêpe.
Et là,
sent qu'il en a bien envie. Et il remonte ses choses d'une main et il plonge l'autre main au fond de la poche. C'est extrêmement bien observé, mais avec une empathie, une tendresse extraordinaire.
Est-ce que... Voilà. Au-delà de la virtuosité, est-ce que ce n'est pas aussi ce qui caractérise cet immense artiste, vous l'avez dit, l'empathie, la capacité à essayer de saisir les êtres, non seulement dans leur mouvement, dans leur esthétique, mais aussi dans leur être plus profond
Oui, c'est certainement, Rembrandt met beaucoup de sa personne dans son art. Rembrandt n'était pas forcément une personne bien. Je veux dire, c'est un homme qui doute, c'est un homme qui, par exemple, il s'est assez mal comporté avec Geertje Dirks, qui est la femme qui s'est occupée de Titus après la mort de Saskia, et avec qui il a eu un procès pour rupture de promesse de mariage et qui l'a fait enfermer. Mais c'est évidemment un homme qui s'intéresse beaucoup, qui est dans une quête de l'humain. Tous ses dessins, toutes ses gravures le montrent, toutes ses peintures montrent un artiste vraiment, même dans ses commandes officielles, extrêmement, extrêmement soucieux d'une démarche personnelle. En fait, il invente en permanence. Donc, quand on invente, quand on crée, on met forcément énormément de soi dans ce qu'on produit.
Et mais on essaie de percer l'autre aussi.
Oui,
parce qu'à mettre de soi. Ok, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'artistes qui trouvent en eux-mêmes leur inspiration et tout ce discours autour de leur génie propre. Mais tout vient d'eux. Lui, on a l'impression qu'il est plutôt comme une éponge qui a capté l'humanité des autres pour la restituer.
Oui, pour s'en nourrir, sans doute, pour en nourrir son art. Il y a cette pratique graphique qui est très importante chez lui, de la gravure, et il travaille essentiellement l'eau forte. Or, l'eau forte a cette particularité de permettre qu'on reprenne une gravure. On peut produire plusieurs états d'une certaine épreuve, donc on a toute une possibilité de varier. Et là où je veux en venir, c'est que en fait, il recherche quelque chose qui n'est pas la perfection. Il est dans un mouvement de création perpétuelle, c'est-à-dire qu'il veut qu'il change. C'est comme un miroir qui bougerait tout le temps devant son objet. Et donc, il va faire un état, deux états, trois états, jusqu'à sept états d'une gravure, non pas pour qu'elle soit de plus en plus belle, mais parce qu'il cherche des solutions, il cherche des idées dans un motif. Et c'est un peu la même chose qu'il fait quand il fait ses autoportraits, hein, tout au long de sa vie. Il cherche à exprimer la même chose de façon différente. C'est-à-dire, ses traits et sa personnalité, mais dans une quête permanente. Alors, il n'y a pas de quête de la perfection, mais disons une recherche permanente. Je le perçois comme ça. Je trouve que l'œuvre gravée, les œuvres gravées qu'on montre illustrent bien cette quête.
Je vous ai parlé de ces autoportraits innombrables.
Presque une centaine.
Comme elles ont été faites à différents moments de sa vie, et qu'on voit l'œuvre du temps, ses ravages, on a presque l'impression qu'elles forment comme une espèce de grande, de grande vanité. Quoi. Est-ce que je déraille complètement en pensant cela ? C'est-à-dire que,
non.
Les outrages du temps, de la mort, le fait que la renommée, la célébrité, tout cela, est-ce que...
Il est très difficile de savoir exactement quelle était la fonction des autoportraits de Rembrandt. D'ailleurs, ces autoportraits ont sans doute plusieurs fonctions. Certains étaient vendus, parce que le maître était connu et apprécié, recherché par les collectionneurs. Certains sont sans doute des œuvres très personnelles qu'il garde, ou qui sont destinées à ses proches, ou qui ne quittent pas l'atelier. Et enfin, il y a même eu des autoportraits, alors ça c'est curieux de le dire, mais peints par les élèves, c'est-à-dire que c'est aussi... L'autoportrait de Rembrandt devient en quelque sorte un exercice de l'atelier de Rembrandt. Donc on a des autoportraits de Rembrandt par Van den Ekoot ou d'autres élèves. Donc c'est assez drôle.
C'est une mise en abîme que vous avez.
Voilà. Mais c'est sûr que, dans le fond, c'est aussi le sujet le plus pratique qu'on a. Quand on a un miroir, on a le modèle. Donc il y a un peu de tout ça dans les autoportraits. Mais c'est évident que c'est quand même très particulier chez lui. Tous les artistes n'ont pas produit 100 autoportraits. On pourrait citer... Goya en a fait beaucoup au 18e. Durer, pas tant que ça, quelques-uns, mais quand même un peu, des dessins, des gravures. Et puis au 20e siècle, il faudrait citer Bacon ou des artistes comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement particulier de se peindre autant de fois et avec toutes les techniques possibles et imaginables et tout au long de sa vie. On a les premiers autoportraits, sont pratiquement dans les tout premiers tableaux. Il a 18 ans, 19 ans, et il en a peint l'année d'avant sa mort, donc... Oui, c'est vrai que c'est...
Là aussi, il travaille les mimiques.
Oui, l'expression.
C'est pas hiératique. Hein.
Non, c'est l'expression, c'est la profondeur du regard, il travaille aussi la présence. Il y avait cette vieille thématique du mimétisme depuis la Renaissance, c'est-à-dire que Vasari a écrit là-dessus hein, le portrait de Castiglione, qui est tellement vivant que son fils a cru qu'il était là. Enfin, bon, toutes sortes de légendes qui tournent autour de la ressemblance du réalisme, de la réalité reflétée par la peinture. Mais il est Rembrandt là dans sa technique, ça. Et il va chercher à passer au-delà de la ressemblance, que trouver.
Dans ce trajet qui est le sien, on sent qu'à un moment, il décroche du désir aussi de reconnaissance sociale qui pouvait le travailler légitimement au début de sa carrière. Et qu'ensuite, dans une dernière phase, ayant acquis cette reconnaissance, mais malgré ses déboires financiers, puis aussi terribles malheurs qui l'ont frappé, il passe à une phase d'inspiration beaucoup plus libre et dégagée du désir de plaire, peut-être tout simplement.
Oui, sa technique évolue. En fait, dans les dernières périodes, la dernière décennie de son activité, il adopte une manière beaucoup plus large en peinture, avec des brosses beaucoup plus larges, même des couteaux. Il triture la pâte, il la sculpte avec une grande autorité et je dirais une originalité que à peu près personne n'a à son époque, sauf peut-être justement Frans Hals, qui est lui à Harlem et qui va également faire une peinture extrêmement, je dirais, lisible dans sa technique, avec des grands coups de pinceau vraiment perceptibles, à l'inverse de cette peinture lisse, extrêmement précise, porcelainée, que Rembrandt a peint au début de sa carrière. Donc il s'est libéré de cette minutie au profit d'un métier très empâté, extrêmement vigoureux, très fort, qui va avoir une très grosse influence sur l'art du XIXe siècle. Un Courbet a forcément vu et aimé les tableaux de Rembrandt, à leur espèce d'autorité technique extraordinaire. Rembrandt, à cette époque-là, en effet, est plutôt socialement déclassé, même s'il est quand même encore protégé par des élites. Il y a les élites juives auprès de qui il a toujours été bien. Notamment, il a fréquenté des rabbins, il a fréquenté des juifs de son quartier. Les mnémonites qu'ils n'ont pas laissé tomber. Et aussi une élite intellectuelle savante de médecins. Le docteur Tulp, le docteur Neyman et puis le docteur Tollings, dont nous présentons un portrait. Voilà, ce sont des savants, ce sont des médecins qui ont pratiqué des anatomies que Rembrandt a représentées dans deux tableaux célèbres. Hein. La leçon d'anatomie du professeur Tulp, qui est à La Haye, mais qui malheureusement n'est pas à l'exposition, et celle du professeur Neyman aussi. Donc, les dissections sont...
Et qui est absolument terrifiant.
Oui, ce sont des tableaux...
Surtout la seconde.
Ce sont des tableaux terribles que ces leçons d'anatomie, parce qu'en en fait, il n'y a pratiquement qu'en Hollande où on pratique la dissection. La dissection est interdite dans toute l'Europe catholique, et je pense pratiquement dans toute l'Europe. Il n'y a qu'aux Pays-Bas où c'est une pratique scientifique, je dirais pré-positiviste, si on peut imaginer ce terme. Et c'est intéressant de voir que Rembrandt a fait partie de ce cercle de savants curieux qui font des investigations sur la nature et sur le corps humain. Et en ce sens, il se rapproche d'une certaine façon de Léonard de Vinci, qui lui aussi va mettre sa curiosité universelle au service de son art. C'est aussi une façon d'essayer de comprendre le monde, ces leçons d'anatomie.
Il n'en reste pas moins que dans la seconde, on sent quand même comme planer une sorte d'effroi.
Oui.
La composition elle-même.
Mais.
Un peu effrayante. Enfin, nous sommes à la radio, mais enfin, vous pouvez peut-être la décrire.
Alors, si l'on décrit ce tableau, donc c'est un fragment. Le tableau a beaucoup souffert d'un incendie au XVIIIe siècle, mais il en reste quand même un morceau significatif, c'est-à-dire le corps du mort qui est vu. Alors c'est une référence en histoire de l'art, puisqu'il est perçu en perspective raccourcie comme le corps du Christ mort de Mantegna, aujourd'hui à la Brera à Milan. C'est donc une citation presque d'art italien, mais au lieu d'avoir un tableau religieux, et c'est là toute la différence entre les vanités et ce genre de tableau, les vanités sont des tableaux religieux. Ici, on a un tableau froid, c'est-à-dire que le corps est vidé, éviscéré. Il y a une énorme
son ventre
trou,
est une béance.
Voilà, une béance dont ont été tirés les viscères. Et pendant ce temps-là, un des médecins est en train d'ouvrir le crâne, de décaloter le crâne, où on voit sanguinolent le cerveau du mort. C'est en effet une image terrible de la mort, une des plus terribles qui ait jamais été peinte. Hein. Et c'est vrai que c'est une façon de faire tout à fait exceptionnelle, nouvelle, voilà, scientifique. Il y a une distance par rapport au sujet, terrible.
Mais qui en montre toute la violence.
Oui, c'est très violent, oui. Oui. Alors ce tableau n'est pas à l'exposition, malheureusement, mais on ne pouvait pas montrer les 340 tableaux de Rembrandt.
Mais il est relié au portrait du docteur Tollings.
Oui, voilà, c'est ce milieu, oui. C'est ce milieu savant qu'il a aimé fréquenter et qu'il... Je pense que c'était forcément quelqu'un d'assez lettré et intelligent, Rembrandt, donc il devait être apprécié, et c'est sa façon de voir devait être appréciée de ses scientifiques. Ça me paraît évident. Il a une analyse, il propose aussi, Rembrandt, à travers sa peinture et son art, une clé pour la compréhension de l'homme et du monde. Hein.
En tout cas, le sentiment que l'on a lorsqu'on voit ce tableau, c'est qu'on comprend que nous sommes à un moment d'une grande bascule dans l'histoire de l'humanité. Ce qui en ressort, c'est à la fois une immense curiosité pour l'homme, mais en même temps, de façon un peu paradoxale, sa désacralisation.
Oui. J'ai toujours pensé que on situe toujours les débuts de la modernité au 19e siècle, enfin avec l'impressionnisme, avec la fin du 19e siècle. Le 17e siècle a en germe un nombre de révolutions intellectuelles, morales et artistiques incroyables. À la même époque, Vermeer met du sable dans ses tableaux pour peindre la plage ou les murs grumeleux d'une ville. L'art change de dimension au XVIIe siècle, et particulièrement en Hollande, où des artistes vont, je dirais, faire des expériences et vont lancer la peinture dans des directions très avant-gardistes, comme c'est le cas de ce tableau. Tout en restant quand même fidèle à cette tradition du Christ mort qui remonte en effet à Mantegna.
Oui, mais justement.
Voilà.
Référence au Christ dans le corps de supplicié.
Oui, sans doute, un condamné, on ne sait trop. Oui.
Est assez étonnante.
Oui.
Et crée une forme d'effroi, en tout cas. C'est une œuvre qui vaut la peine d'être vue et méditée probablement. Mm-hmm.
Rien n'est jamais gratuit dans l'œuvre de Rembrandt. Dans la dernière salle, donc, qui est consacrée au Rembrandt de la vieillesse, Rembrandt de la maturité, de la vieillesse, on montre un merveilleux portrait de sa compagne, Henrike Stoffels, qui était une ancienne servante, et qu'il peint comme une reine. Qu'il peint vraiment, c'est celui-ci, vous venez de passer, il la peint comme une souveraine, c'est-à-dire qu'elle est quasiment dans un trône doré, elle porte une hermine, elle apporte une chaîne d'or, des perles à ses oreilles, une sorte de diadème, un bijou formidable dans ses cheveux, alors que c'est le moment de la pauvreté. C'est le moment où, en effet, ils sont la victime des huissiers, des gens à qui on doit de l'argent. Et j'aime énormément cette image un peu érotique, d'ailleurs, de sa jeune compagne, qu'il a transfiguré comme ça dans par l'image et par l'iconographie. Et il y a toujours des intentions dans ses œuvres privées. Et à côté, nous montrons aussi un portrait de son fils, Titus, qui est donc un portrait de Titus lisant, et avec un merveilleux jeu de lumière, où la lumière frôle le front, va sur le livre et se reflète dans le visage, avec un fort symbolisme de la lumière dans ce tableau. Et puis, j'ai remarqué que Titus lit la bouche ouverte, c'est-à-dire qu'il lit à haute voix. Et c'est voilà encore une de ces choses qui, sans être dans le tableau, et dans le tableau, c'est tout à fait les éléments extra-picturaux que Rembrandt aime à traiter dans son œuvre.
Je ne sais plus si c'est dans la même salle, mais il y a je ne sais même plus si c'est présenté, parce que je mélange désormais les salles et le catalogue, qui est très riche aussi.
Oui, le catalogue présente beaucoup d'œuvres qui ne sont pas à l'expo, forcément.
L'œuvre dite Isaac et Rebecca, dite la fiancée juive,
c'est une grande beauté aussi, une puissance
intérieure. L'art que vous décrivez, la capacité d'un Rembrandt à mettre sur une surface lisse des sentiments brûlants et intérieurs, c'est absolument extraordinaire.
De même qu'il avait... ce tableau n'est pas présenté à l'exposition, mais nous présentons des gravures extrêmement émouvantes, notamment de l'Ecce Homo et de cette crucifixion dont nous montrons le dernier état, qui est d'un expressionnisme incroyable, avec une violence dans l'ancrage, dans la façon de mordre la plaque de cuivre, de la travailler, de l'ancrer, qui d'un seul coup projette Rembrandt au XXe siècle, enfin pratiquement dans l'univers de Soulages ou de Klein, enfin avec un rôle du noir extrêmement violent, puissant, très très émouvant, en fait, quand on tombe sur cette gravure.
C'est l'une, effectivement, des, des plus surprenantes. Et elle seule, elle devra inciter nos auditeurs à se rendre à cette exposition, parce que comme nous le disions en introduction, lorsque nous pensons Rembrandt, souvent on pense effectivement aux portraits, à ses peintures avec travail de la lumière, mais ce travail de la lumière est forcément par contraste de l'ombre et des ténèbres, n'est pas moins présent dans ses gravures et avec une modernité absolument sidérante. J'avoue que je ne le savais pas. Je pense ne pas être le seul parmi nous à l'ignorer, mais pour le découvrir, il ne suffit pas d'en parler, il faut aller les voir et les voir longuement, les méditer, car c'est une peinture, surtout à la fin, qui est méditative, non ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans ce terme d'intime. Un terme polysémique, en effet, on peut le prendre comme on veut, son intimité à lui ou notre intimité à nous en face de ses œuvres.
Merci beaucoup Pierre Coury. Voilà, je rappelle donc pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette exposition qu'elle a lieu jusqu'au 23 janvier 2017 au musée Jacques Marandré. Bien entendu, il est possible de découvrir à la fois sur le site internet de Canal Académie, mais aussi sur celui de l'Institut et du musée Jacques Marandré, l'ensemble des informations pratiques nécessaires. Merci encore de nous avoir éclairé sur cette intimité de Rembrandt et allez à cette exposition. Thank you.